cinéma d'aujourd'hui, Cinéma sans frontières, Baya Alouache.
Comme chaque semaine, nous vous invitons au cœur du monde, au cœur des films. Et pour commencer la séance, retour sur un grand classique du cinéma italien avec la bande-annonce de la semaine. Il bidone de Federico Fellini.
Questo signore è un truffatore, bisogna portarli quassù.
Calmati, fermi.
Augusto Rocca est un vieil escroc désabusé qui porte sur son visage buriné les marques de sa vie totalement ratée. Entouré de Carlo et de Roberto, il enchaîne les petites arnaques. Se déguiser en homme d'église pour abuser de vieilles paysannes bigotes et cupides, se faire passer pour de hauts fonctionnaires venus distribuer des appartements aux habitants des faubourgs miséreux de Rome, rien n'arrête les trois acolytes.
Andiamo.
À casa.
Il bidone, più che un film, è un avvenimento artistico. È un'opera destinata a restare impressa nel cuore degli spettatori e nella storia del cinema.
Blasé et cynique, Augusto a beau vouloir se ranger, quitter le milieu des petites combines qui assurent à peine les lendemains, il n'y arrive pas. Et puis le temps passe, les remords s'accumulent. Augusto, délaissé par Carlo et Roberto, oublié de sa fille Patricia, de retour à Rome après plusieurs mois de prison, est terriblement mélancolique. A-t-il pour autant renoncé à sa vocation de brigand grotesque et malheureux? Rien n'est moins sûr.
Monsignore, aspetti, non vada via.
Prende parte al film Il Bidone un complesso di attori di fama internazionale. Broderick Crawford, Richard Basehart, Giulietta Masina, Franco Fabrizi.
Il bidone de Federico Fellini, actuellement à l'affiche. À l'affiche, Making of du Tunisien Nouri Bouzide. Proposer des clés de compréhension du phénomène des kamikazes, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui commettent des attentats suicidaires au nom de la guerre sainte, c'est ce que tente de faire Nouri Bouzide dans son nouveau film Making of. Bahta est un jeune Tunisien passionné de danse, mais ses ambitions artistiques et sentimentales sont toujours plus contrariées par la pression sociale et les jugements de valeur. Amer et revanchard, il se laisse séduire par les thèses islamistes jusqu'à accepter de sacrifier sa vie pour le djihad. Lotfi Abdelli est un jeune acteur, c'est lui qui interprète Bahta. Et dans Making of, on le découvre en tant que comédien, d'où le titre du film. Dans des coupures documentaires, il débat avec Nouri Bouzide, expose sa vision personnelle de l'islam et sa crainte de la façon dont sera perçu le film à la sortie. Lui, comme Nouri Bouzide, est préoccupé par cette même façon dont les musulmans et les arabes sont caricaturés depuis les attentats du 11 septembre. Nouri Bouzide est au micro de Sophie Torlotin.
C'était en tournage de Poupée d'Argile, deuxième semaine, et c'était le 11 septembre. Et j'ai regardé pendant tout le tournage, toutes les télés, je captais le soir. Et je voyais les gens, les citoyens du monde entier qui se posent la question pourquoi ils font ça. Et je me suis posé la question, je dis je vais faire un film pour comprendre pourquoi. Le film m'a permis de plonger dans toute cette histoire.
Alors, Making of, le personnage Bahta, c'est un danseur plus exactement, c'est un danseur de hip-hop, de rap. Alors, est-ce qu'on peut parler justement du début du film, comment vous installez? Parce qu'on le voit assez longuement, il est un peu en déshérence, mais il est passionné de danse.
Il est passionné de danse, il rêve de partir en Italie parce que c'est le chemin le plus court pour brûler. Vous comprenez le terme maintenant, il est connu.
C'est-à-dire pour émigrer illégalement.
Pour émigrer illégalement, c'est-à-dire il brûle ses papiers, il brûle ses doigts pour perdre son identité, pour qu'on ne le ramène pas. Et avec la guerre du Golfe, l'occupation de Bagdad, la chute de Bagdad, tout est fermé. Tout ce qu'il fait marche mal, alors il devient un peu plus rebelle. Il va faire une sorte de manif. On l'arrête et finalement il va faire une folie qui le rend un peu, disons, recherché et caché. Et les intégristes, les rabatteurs de candidats à l'intégrisme le découvrent, le voient, assistent à tout ça et vont l'engager. On lui vend le paradis avec les grandes vierges, voilà. Et lui dit, si je refuse, je lui ai dit, oublie les vierges. Alors lui, il réfléchit un peu. Mais en même temps, il ne pensait pas qu'il devait tuer. Il pensait, martyr, il va mourir. Au moment où il lui parle de tuer, donc un peu plus loin, c'est à ce moment-là qu'il fuit. Et qu'il ne supporte pas, il dit, je ne suis pas tueur. Il accepte de mourir, mais n'accepte pas de tuer. On ne nous parle jamais de ceux qui refusent. Ils sont beaucoup plus nombreux. Et moi, je me suis dit, le vrai héros, c'est celui qui refuse. C'est l'exemple que je dois montrer, parce que étant rebelle, il ne va pas échapper à une forme d'endoctrinement. En Europe ou en Amérique, le rôle des gens, c'est de protéger les citoyens comme victimes. Nous, c'est de protéger les jeunes de devenir kamikazes, d'aller tuer. Et c'est autre chose, donc on doit les prendre dès le début. Dès le départ, on doit faire attention à tous ceux qui sont fragiles, les maillons faibles de la société. J'ai été avec le film dans tous les pays arabes, avec des débats énormes. Et les débats, c'est comme une guerre. Les gens qui adorent, les gens qui ont peur, comme le personnage. Et ils se retrouvent dans ce film, ils se retrouvent dans le personnage.
رضوخ واستسلام وهزائم ألم ينتهي زمن هزائمنا؟ متى تفيق الشعوب؟ سقطت بغداد رمز العراق والكرامة العربية.
Making of, il y a un choix de mise en abîme, c'est-à-dire que à plusieurs reprises le film est interrompu comme si on montrait l'envers du décor, à savoir vous, on vous voit, Nouri Bouzid, on voit votre acteur qui parlemente avec vous, qui vous pose des questions, pourquoi je fais ci, pourquoi ça.
Ça n'était pas écrit à l'avance et l'acteur ne le savait pas, moi je le savais, moi je l'ai provoqué. Mais l'acteur ne le savait pas, on a tourné dans l'ordre chronologique. Il ne savait pas qu'il y avait une autre caméra qui n'était pas la caméra 35. Parce que la voix, elle était là, il pensait que c'était la caméra d'un making-of sur le film. Il y en avait 7, pas seulement 3. Parce que je voulais rester dans un deuxième enjeu qui est, est-ce qu'on a le droit de parler de ça? Parce que les médias ne donnent pas la parole à l'intégriste. Moi je dis, je lui donne la parole, mais je lui réponds. مع
العالم. Coup de cœur de la semaine pour le film d'animation Panique au village. Frondeur et subversif, le cinéma peut l'être par le message, mais aussi par la forme. Vincent Patard et Stéphane Aubier, surnommés les Pic-Pic depuis qu'ils ont réalisé leur premier court-métrage d'animation en 88, font partie de cette élite artistique dont l'imaginaire déjanté produit régulièrement des films jubilatoires de loufoquerie. Dernière livraison en date, Panique au village. Dans ce premier long métrage, inspiré d'une mini-série, les deux animateurs belges ont choisi de mettre en scène certains des jouets les plus illustres de notre enfance. Un cow-boy, un indien et un cheval, soit trois petites figurines en plastique auxquelles ils font vivre les aventures les plus rocambolesques. Pourtant, tout part d'une intention fort louable. Pour fêter dignement l'anniversaire de leur ami cheval, cow-boy et indien décident de lui offrir un cadeau original. Ce sera un barbecue à construire soi-même. Mais petit problème de commande sur Internet, cow-boy et indien se font livrer 1 milliard de briques. Je vous laisse imaginer la suite. Les catastrophes ne font que commencer. Vincent Patard et Stéphane Aubier s'en expliquent au micro d'Elisabeth Le Quéré.
Panique au village, en fait, si on doit vraiment revenir au début, c'est un film d'animation que j'avais fait il y a 20 ans pratiquement maintenant, à l'école. C'est un film de fin d'études, c'est juste pour essayer de faire un film d'animation en stop motion. Stop motion, c'est-à-dire des objets qu'on a devant la caméra. Mais en général, les stop motion, c'est plutôt de la pâte modelée ou alors c'est des personnages animés style marionnette qu'on peut mettre en mouvement. Mais moi, je ne savais pas utiliser ça et je n'avais pas beaucoup de temps, j'avais peut-être 15 jours. Donc j'ai eu l'idée de prendre des personnages de ferme style les vaches, les cochons et d'autres animaux sauvages comme ça. Et puis le fermier, la fermière, et puis les installer dans un décor super sommaire en papier mâché. Et puis voilà, c'était juste pour raconter une histoire vite et se marrer.
Et vous, Vincent Patard, vous êtes arrivé sur le projet à quel moment?
Mais en fait, on a fait nos études ensemble à la Cambre et on avait déjà fait des dessins...
En Belgique.
En Belgique, oui, à Bruxelles. Et on avait déjà fait des dessins animés ensemble, mais les professeurs nous ont un petit peu invités à jouer avec différentes techniques pour profiter justement du matériel qu'il y avait à l'école. Et voilà, donc moi j'avais fait aussi de mon côté des films d'animation, et puis on habitait ensemble, donc on a toujours un petit peu échangé nos idées.
Plus impressionnant que la Tour Infernale.
Oh non !
Plus romantique que la leçon de piano.
Comment vous faites de la musique ?
Plus bouleversant que la marche de l'empereur.
T'as dit quelque chose, Neval ?
Oui, il y a un truc qui bouge là-bas.
Et est-ce que c'est compliqué de passer du format sketch au format long métrage?
Ah oui, en fait, on était assez naïfs quand on avait fait la série de 20 épisodes de 5 minutes. On a fait une petite équipe, donc on s'était mis avec des copains. On était peut-être 5 au début, et puis après, on était peut-être une dizaine. Mais vraiment, une petite équipe, et c'était vraiment sympa, c'était assez créatif. Et on arrivait facilement à raconter des histoires, donc on était à l'aise avec ça. Du coup, on s'est dit, tiens, oui, ce serait bien d'essayer de raconter une histoire un peu plus longue avec ces personnages-là, ce cow-boy, indien, cheval. L'idée, c'était soit de faire un spécial télé, ou alors de se lancer carrément dans le long métrage, et puis on a opté pour le long métrage parce que c'était, bah allons-y carrément quoi, essayons. Et voilà, nous on avait prévu de faire en 6 mois le scénario, mais finalement il nous a fallu 3 ans parce que on partait dans tous les sens et on avait du mal à structurer les choses pour se concentrer sur le trio de base qui devait influencer tout le film.
Alors ce trio de base, on peut le rappeler, donc il y a d'un côté Cheval qui est un peu l'âme, l'esprit, l'intellect du trio, et puis il y a les deux spécialistes de la catastrophe, Cowboy et Indien. Alors d'où vous est venue l'idée d'inventer deux personnages qui seraient des professionnels de la catastrophe?
Il y a le côté simple et crétin des personnages aussi qu'on aurait pu découvrir dans les bandes dessinées ou qu'on aime bien, et c'est ce côté un peu simple qu'on aime développer en fait. Et donc voilà, ces personnages Cowboy et Indien, puis l'idée d'imaginer que c'est un cheval qui est le chef de famille et que c'est le duo cowboy indien un peu à la je sais pas, Laurel et Hardy comme ça, deux bêtes personnages qui imaginent des catastrophes un petit peu malgré eux aussi parce que bon ils le font pas exprès, ils sont de bonne foi et voilà, c'est des choses qui nous font marrer.
Voici Panique au village avec Indien dans le rôle d'Indien, Cowboy dans le rôle de Cowboy et avec Cheval.
Bah oui, comme tous les bêtes, il a joué.
Vincent Patard, Stéphane Aubier, vous travaillez à quatre mains. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qui fait quoi?
Dans un premier temps, bah, y a déjà l'envie de raconter une histoire. Donc on étale des dessins sur la table, on cherche chacun de notre côté. Et puis on en discute, on commence à mettre les choses en place. Stéphane va faire le storyboard, commencer à développer un semblant de scénario, mais avec tout, en réunissant toutes les idées qu'on avait mises en place avant en discussion. Ça s'est mis un petit peu en place, la façon de travailler déjà sur la série, mais surtout sur le long. Forcément, on a travaillé à 4 avec Stéphane Malandrin et Vincent Tavier, qui sont aussi de la production. Et donc, eux deux, ils viennent vraiment du cinéma plus traditionnel, live, et ils nous ont vraiment aidés à canaliser toutes les idées, à mettre en place et tout ça. Que c'est une espèce de working progress. Dès qu'on a un storyboard, on rajoute encore des idées après.
Stéphane Aubier, Vincent Patard, merci beaucoup. Panique au village, est-ce qu'on peut imaginer une suite?
Dans un premier temps, je crois que tout naturellement, on aurait envie de retourner vers des formats courts parce que c'est vraiment un lieu pour nous de recherche, un petit peu un laboratoire où on peut vraiment essayer des nouvelles choses. Et je pense qu'on va opter pour ce genre de travail dans un futur. Proche. Maintenant, on ne sait pas encore très bien parce qu'on a plusieurs trucs en tiroir, donc on verra.
Oh, souffle à la tête.
Coup de cœur DVD de la semaine pour finir, K20, l'homme aux 20 visages du réalisateur japonais Shimako Sato. Le film K20 est l'adaptation d'une saga en 24 tomes, sortie en 1940 au Japon et devenue depuis un véritable best-seller. L'histoire se déroule en 1949, dans un monde qui n'a finalement pas vécu la Seconde Guerre mondiale. Elle retrace les aventures d'un vengeur masqué, nommé K20, qui change d'apparence pour dépouiller les riches aristocrates. Ultime pied de nez à la police qui le traque vainement, il décide de lui faire croire qu'un acrobate de cirque nommé Eikichi Endo est l'auteur de tous ses larcins. Après la descente aux enfers du jeune innocent, c'est le temps de la vengeance qui sonne. Un casting ambitieux avec la star nippone Takeshi Kaneshiro, des effets visuels et des performances athlétiques impressionnantes, Cavin a tout du grand spectacle, comme le précise Igor Possard, le distributeur du film, au micro de Roxane Pierre.
Oui, ça reprend tous les grands thèmes donc des films d'action et également de grands livres, notamment donc vendus à des millions d'exemplaires. Et c'est l'histoire un peu d'un Robin des Bois, donc version japonaise, qui naturellement vole aux riches et naturellement redistribue aux pauvres.
Et le livre en lui-même existait depuis longtemps au Japon.
Le livre en lui-même existe depuis très 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 longtemps au Japon. C'est de génération en génération. C'est un super-héros. Ce livre est généralement donc la Bible de tous les enfants. Dès que les enfants donc sont prêts à entendre une belle histoire, eh bien leurs parents leur lisent l'histoire de Cavin.
Au Japon, le film a été un véritable blockbuster avec un budget à la clé de 20 millions de dollars. Dans le rôle principal, Takeshi Kaneshiro, c'est une vraie star au Japon et en Asie. Il fallait donc tout cela pour être à la hauteur du projet.
Il fallait tout cela, comme tout grand film, tout bon film et tout blockbuster. Il faut une belle histoire, il faut un budget, il faut un acteur, il faut également une belle musique. Il faut également les moyens, parce que quand on parle film d'action, il faut également des effets spéciaux. Et pour faire des effets spéciaux, il faut également des budgets, d'où tous ces ingrédients donc, générés par un investissement assez important pour un film japonais de 20 millions de dollars.
Oui, non.
C'est l'histoire originale et comme tout héros un peu torturé, donc notamment dans une période qui est une période d'après-guerre, une période également où la personne a été incriminée donc à tort, il y a toujours besoin de se venger et souvent donc on retrouve cet esprit sombre, cet esprit noir où les gens ont besoin de se cacher derrière un masque pour véritablement exprimer leur noirceur.
Cavin, l'histoire est donc finalement une traversée des apparences. Les mauvaises personnes au début de l'histoire ne sont finalement pas celles que l'on croit. Il y a des personnages ambivalents comme l'inspecteur Kogoro Ageshi. Comment expliquez-vous cela ?
Oui, pour que ce soit bien réussi, il faut obligatoirement ces ambivalences de caractère. Et en plus, toutes ces histoires ne font reprendre quelque part que la vraie vie. Donc c'est ce que l'on retrouve à travers les films, c'est ce que l'on retrouve dans la vie. Et généralement, les films s'inspirent souvent de faits réels. Et je pense que l'histoire de Cavin démontre une fois de plus toute cette ambivalence et des gens que l'on imagine être dans un certain style et en fin de compte être totalement le contraire. Des gens sur qui on s'appuie et à tort et des gens sur qui on ne s'appuie pas également donc à tort. Et je crois que ça démontre une fois de plus, je dirais, la vie réelle.
Alors on va parler de la distribution du film. Comment cela se fait-il que le film est finalement directement distribué en DVD en France et qu'il ne soit pas sorti dans les salles ?
Comme beaucoup de produits donc, à ce jour, il y a souvent des engorgements au niveau des sorties salles. Et ce produit n'avait trouvé aucun distributeur sur le marché français. Il ne fait pas partie non plus des grosses productions de sociétés comme Sony, Warner ou autres. Donc il n'a absolument pas de pouvoir, ou en tout cas de distributeur donc, en France. D'où une sortie qui est une sortie qu'on a décidé de faire en direct.
Mais ne quittez pas votre fauteuil, on se retrouve juste après les infos.